agence.
C'est bon.
Parmi les emblèmes de la Bretagne, l'un des plus présents reste la crêpe de blé noir, appelée aussi galette de sarrasin, apparue au tout début du 19e siècle. Celle-ci est rapidement devenue le pain quotidien des paysans et ouvriers. Qu'elle soit fine ou épaisse, humide ou croustillante, tous les Bretons ont leur avis sur ce qui fait le sel de cette tradition vivante en pleine évolution.
On est parti.
Alors, quelle est votre recette de pâte?
Alors, la recette de la pâte, ça fait rire parce que c'est toujours à peu près, quoi. Alors, les gens sont en colère parce que je ne veux pas donner la recette.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec de la farine bretonne de sarrasin et plein de bonnes choses dedans. Attention aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, on vous promet une belle leçon de galette de sarrasin avec celle qui était déjà venue nous voir il y a quelque temps pour nous révéler les secrets de la crêpe de froment. C'est Catherine Merdi-Gouazdoué, bonjour!
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes une experte très reconnue de la crêpe, de la galette. On va expliquer d'ailleurs les nuances. Crêpe, galette, c'est pas toujours très simple à comprendre. Vous êtes aussi formatrice en crêperie depuis au moins 40 ans, non?
On compte plus après.
C'est ça. Voilà. Et vous avez écrit un livre de référence, je l'ai à mes côtés, Les crêpes, l'art et la manière. Alors d'habitude, c'est jamais sans mon Billig, mais là, il est resté un peu dans son carton parce qu'on vous lance un défi, c'est de faire des crêpes de sarrasin comme à la maison avec une crêpière, et vous allez nous dire que c'est possible.
Bien sûr, pour que tout le monde fasse des bonnes crêpes de blé noir ou de sarrasin, hein, ça veut dire la même chose. Mais il faut manger du blé noir, c'est bon pour la santé, vous allez le découvrir.
Parfait, petite démonstration en live dans le courant de cette émission. On va aussi parler de cette petite graine bretonne qui monte, le sarrasin ou blé noir, avec Yves Philippe, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous vous définissez comme...
un paysan éveilleur de papilles.
C'est marqué sur votre tablier que vous portez. Vous êtes à la tête de votre nouvelle entreprise dont vous nous révélez le nom.
Brazin.
Vous l'avez créé il y a 2 ans, je crois. Alors attention, vous cultivez du sarrasin en bio du côté de la presqu'île de Crozon dans le Finistère. Vous transformez vos farines en biscuits. Vous allez même ouvrir dans quelques temps, je crois, une crêperie paysanne.
C'est ça, exactement, pour profiter de nos céréales dites d'antan.
C'est ça, donc vous êtes vraiment dans le sarrasin jusqu'au cou, dans les fauteuils des chroniqueurs, deux bons copains du dimanche, Jérôme Gagnès et Laurent Delmas. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour à tous.
Jérôme.
Il y a un petit hommage à Laurent Delmas.
Oula.
On
craint le pire. Je crains le pire, merci, ouais. François.
On a un merlot qui fait de l'œil au cinéma.
Ah non, là il vous veut peut-être
c'est
du bien.
C'est un hommage, peut-être, vous croyez?
Oui. Oui.
Laurent, oui, on va essayer de le faire comme ça. Un Chabrol, un poète breton et un raton laveur.
Oui, absolument. Voilà. Vous aurez compris que le blé noir peut être aussi une star de cinéma. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir avec notre ami Laurent Delmas. Si vous voulez mettre votre grain de sel dans notre émission, envoyez-nous vos remarques ou vos questions sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Les amis, juste avant de partir en Bretagne, je vous propose un petit détour par le Vietnam. Je vous ai dégoté un de ces petits restos vietnamiens à Paris. Vous allez m'en dire des nouvelles. Nous sommes au 72 Quai des Orfèvres. Tiens, voilà, ça sonne cinéma, ça.
Oui, bah oui, c'est ce qu'on puisse dire.
On est face au Pont Neuf, sur l'île de la Cité, dans une cantine de charme aux murs colorés, baptisée Hanoï 1988, oui, car le patron Quang Huir Nguyen est né à Hanoï en...
1988.
Oui. Bravo. Ah, il y en a un qui suit, absolument.
Ah, chapeau.
Il est arrivé à Paris à l'âge de 20 ans pour des études de photographie, et puis il a bifurqué un peu par hasard dans la restauration. Et l'une des spécialités de sa maison, Hanoï 1988, c'est le feu. Ça s'écrit faux, P-H-O, mais ça se prononce feu. Je me suis glissé en cuisine pour retrouver le patron... en train de cuisiner, devant, de grandes marmites ou bouts à petit feu, des bouillons extraordinaires.
Je m'appelle Huy, je suis né à Hanoï, cuisiner, faire le feu au Vietnam, ça c'est le grand concours, parce que j'ai déjà gagné la médaille d'or au Vietnam à l'année 2019. Le bouillon c'est très important, recette de famille, de grand-mère, et maintenant ma mère, et maintenant c'est moi.
Donc ça veut dire que c'est une recette de bouillon que vous avez de votre grand-mère,
ouais,
qui a été transmise à votre maman,
ouais,
et vous, à votre tour. Mais c'est quoi son secret? Parce qu'il y a une note épicée extraordinaire,
ouais,
il y a du gras.
Ouais, je vais vous monter un petit peu pour pouvoir rapidement, hop. Là, ça c'est le oignon. Un petit peu d'épicé vietnamien ici.
Il y a quoi comme épice?
Anis.
Oh, les parfums d'épices douces. Il y a aussi un peu de cannelle?
Oui, c'est ça. Vous voyez, ça c'est le cœur de bœuf. Eau de bœuf aussi. Hop.
Voilà. Et c'est un bouillon qui est donc épicé, mais il est également gras. C'est important le gras.
Oui, c'est important le gras, mais normalement les gras là, je les ai enlevés là. Mais pour les Vietnamiens, ils aiment bien les gras comme ça.
Pour le feu classique, vous prenez un bol, vous mettez le bouillon, et il y a des nouilles.
Oui, il y a des nouilles, bien sûr, nous nourrir.
Et des herbes fraîches?
Ça, c'est le coriandre long et ciboulette thaïlandaise. Parce que je mangeais beaucoup de feu à Paris, mais je ne trouvais pas le goût vraiment à Hanoï. Un petit peu de poivre. Voilà, c'est, le goût c'est plus fort. Ça c'est mon petit. Oh, dis-le! Faut doucer, ben.
Hanoï 1988, l'affaire a ouvert en juin dernier seulement et déjà une foule d'habitués se rue tous les jours sur les 40 couverts de ce restaurant. Alors il y a des Parisiens du quartier, il y a des employés du palais de justice évidemment, il y a des connaisseurs de l'Asie, là il y en a partout, hein. Des gens qui ont baroudé en Asie, je les ai repérés comme ça à table. Il y a des familles vietnamiennes qui viennent aussi nombreux.
Ce qui est quand même très bon signe.
Exactement, ce qui est quand même très bon signe. 8 feux au choix entre 13,80€ et 16,80€, et moi j'ai un fait pour le feu du chef, avec ce bouillon absolument fabuleux, caressant, bien gras, très profond, des parfums de badiane, vous savez, l'anis étoilé, mais également la cannelle. Je sais que vous êtes un grand amateur de cuisine vietnamienne, cher Jérôme.
Oui, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette cuisine asiatique, enfin thaï et vietnamienne du reste, ce sont deux cuisines que j'aime beaucoup, oui.
Avec beaucoup d'herbes fraîches, beaucoup de subtilité.
Il y a un aussi... vietnamien qui n'est pas tenu par un chinois, c'est aussi une bonne, un bon scoop.
Absolument, c'est un authentique vietnamien avec un patron qui a une vraie culture culinaire héritée de sa grand-mère d'Hanoï. Il y a aussi de très bons nems, des bobounes, même si depuis notre émission avec André De Rennes, il y a quelques temps, l'auteur d'Un orage par jour, un roman graphique qui se passe à Ho Chi Minh Ville, on apprend que le boboun en fait est un peu une invention occidentale. Hein. Cette salade de bœuf et de vermicelle de riz avec des légumes croquants, des herbes fraîches. Mais il y a un boboun pour s'adapter évidemment à la clientèle et il est délicieux. Hanoï 1988, 72 Quai des Orfèvres. Laurent Delmas a retenu l'adresse.
Oui, absolument.
Paris 1er. C'est ouvert tous les jours de la semaine et le week-end au déjeuner. Passez-leur le bonjour de la part dont on va déguster derrière la console pour cuisiner cette émission. Laurent Thomas, Laurent Baudouin, Nadia Chougui. On repart en Bretagne et même dans le Finistère, puisque votre point commun, chers invités, avec un certain Brestois qu'on aime beaucoup dans cette émission.
On va parler de mieux sec peut-être.
Bravo, bien joué. Et bien ce point commun, c'est Brest et c'est choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Bon choix.
Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Que l'on délaisse la rue des Siam, c'est nuit d'ivresse. Ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe. Mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, le nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu, que la puissance. toi aussi, ça te bouleverse. Ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce ?
Sur France Inter, je déguste, tu dégustes, on va déguster.
Originaire d'Asie, le sarrasin fut transporté en Afrique et introduit en Europe par les Maures d'Espagne. Quoique ce grain soit avantageux en ce qu'il vient aisément partout, qu'il se développe et mûrisse assez promptement pour donner deux récoltes sur le même sol dans une année favorable, et que son usage soit sain, nourrissant et de facile digestion, on ne peut se dispenser de dire que le pain qu'on en fait est le plus mauvais de tous. Il n'en est pas de même si on emploie le sarrasin en bouillie. Cette préparation est fort nourrissante et saine. On mange cette bouillie chaude ou froide, frite ou grillée. Dans les cantons où le sarrasin constitue la nourriture habituelle des habitants, comme par exemple dans la Basse-Bretagne ou dans la Basse-Normandie, on y fait la bouillie et la galette avec du lait. Cela lui donne un goût plus agréable et le rend plus léger, plus sapide et plus facile à digérer. On en revient souvent évidemment au grand dictionnaire de cuisine de l'ami Alexandre Dumas, publié en 1873. On sent quand même un peu de la part de cet écrivain une forme de mépris pour le blé noir, une nourriture qui serait un peu rustique ou grossière à une époque où il n'a pas vraiment gagné ses lettres de noblesse. Et pourtant, Alexandre Dumas trouve quand même des qualités au sarrasin, dont sa digestibilité. Vous confirmez ou pas, Yves ?
Tout à fait, parce qu'en fait c'est une graine quand même, une céréale... pseudo-céréales, puisqu'en fait c'est pas vraiment une céréale, c'est un polygonacée, très riche en fibres nutritionnelles, ce qui aide beaucoup pour la digestion. Il nous apporte énormément de vitamines aussi, le magnésium est très présent au sein de cette plante.
Donc petite graine miracle.
Exactement.
Donc botaniquement ce n'est pas une céréale, parce que le sarrasin ne fait pas partie de cette grande famille des graminées, à laquelle appartiennent évidemment le blé, le maïs, etc. Exactement. C'est ça que vous voulez dire.
Exactement, c'est partie, comme on disait, de la famille des polygonacées, qui est plus proche de la rhubarbe et de l'oseille.
D'ailleurs, quand vous dites polygonacée et qu'on regarde une petite graine telle que vous nous l'avez apportée, on voit effectivement, on distingue des facettes comme ça, un petit polygone.
Exactement, un petit polygone, ça fait à peu près 5 mm à peu près d'épaisseur. Bah, c'est un fruit, c'est un akène,
oui,
gris, donc qui est enrobé d'une balle, et à l'intérieur on trouve notre petite graine.
Comment on peut imaginer la plante telle qu'elle pousse en Bretagne? On va voir que sa culture revient au goût du jour, évidemment, dans toute la Bretagne. C'est vrai qu'on peut connaître éventuellement cette petite graine, mais dans un champ, à quoi ça ressemble, le sarrasin?
Ah bah, ça évolue énormément tout au long de ces 100 jours, puisqu'on peut, on peut appeler ça une culture des 100 jours aussi. On la sème en général au mois de mai, juin. Moi, pour ma part, c'est plutôt mi-mai que j'aime bien la planter. Au début, on a plutôt un petit tapissage de vert. Ça évolue au mois de juillet avec un beau champ tapissé d'une couleur blanc rosé, qu'on peut voir d'un point de vue magnifique en Bretagne. Ça fait le régal de nos abeilles, puisque c'est une plante très mellifère. Et à la fin du mois d'août, on la voit qui transforme en couleur et qui devient plutôt rouge, un roux roux.
Et là, c'est le moment de la récolter.
Et là, on arrive au fin septembre, et là, on la récolte.
Donc la double récolte de Dumas, on parle Dumas, c'est pas juste.
Pour nous, en Bretagne, c'est plus difficile, puisque du fait de météo, en fait, on la plante après la Sainte-Glace, parce que le sarrasin n'aime pas
on
du
dit,
tout le gel.
On dit planter à la Saint-Jean, récolter à la Saint-Michel.
D'accord. Ah bah voilà, comme ça, moi, c'est clair.
C'est clair.
Donc effectivement, les deux récoltes évoquées par Alexandre Dumas, ça se passe pas si souvent comme ça.
C'est une plante magnifique, quoi. C'est vraiment, elle va jusqu'à 90, 1 mètre de haut, à peu près. Et c'est vrai que son évolution sur 3 mois, le vert qu'elle dégage sur son feuillage au début, et puis les toutes petites fleurs blanches, et après la tige qui rougit, c'est magnifique. Il y a beaucoup de peintres qui ont peint le blé noir, ils ont fait des superbes tableaux.
Ce qui peut expliquer la digestibilité du sarrasin qu'évoquait Alexandre Dumas, c'est aussi, on l'a pas dit, son absence totale de gluten.
De gluten, c'est vrai. C'est une plante de
richesse,
très spécifique.
Alexandre Dumas évoque une introduction en Europe par les Maures d'Espagne. C'est donc l'hypothèse assez traditionnelle qu'on entend, l'hypothèse de l'arrivée terrestre. C'est-à-dire qu'en gros, 12e, 13e siècle, les croisés rapporteraient le sarrasin. Son nom pourrait d'ailleurs évoquer ou renforcer cette hypothèse. Et ensuite, elle aurait effectivement pris racine en Bretagne et dans plein d'autres régions de France d'ailleurs. Il y avait du sarrasin en Auvergne,
dans
du sarrasin dans les Alpes, ce qui a donné aussi les fameux crozets.
C'est dans le Limousin.
Mais il y a une autre hypothèse défendue par d'autres historiens que vous auriez tendance à préférer, Yves-Philippe.
Oui, on a parlé aussi de l'arrivée par les Vikings à un moment donné. Mm-hmm. Donc là, il faudrait peut-être que les archéobotanistes se renseignent là-dessus, parce qu'en fait, c'est assez surprenant aussi.
Donc ça veut dire que le sarrasin sera arrivé plutôt par voie maritime.
Par voie maritime en Bretagne.
Un peu à la même époque, on laisse les historiens travailler sur le sujet qui n'est pas tranché. Et puis évidemment, Alexandre Dumas, dans l'article que je viens de lire, évoque la galette. Mais Catherine Merdigouas-Doué, c'est pas forcément la galette fine comme ça, telle qu'on l'imagine aujourd'hui. C'était peut-être une galette assez rustique et épaisse à l'époque.
Oui, oui, parce que effectivement, gorgée d'eau, cuite comme une bouillie, mais cette bouillie, on l'a gardée froide et puis on l'a découpée. Elle était bien compacte, hein, du coup, mais on l'a découpée et puis on la faisait griller avec pas mal de beurre dans la poêle, comme on peut faire avec la bouillie d'avoine, toujours aujourd'hui. Et là, c'était un régal. En fait, ce blé noir, ce sarrasin, c'était le pain du pauvre, mais on avait, entre guillemets, que ça à manger. Ils avaient que ça à manger à l'époque. Donc, du coup, il y a eu pas mal de recettes d'inventées en fait autour de ce blé noir. Dans le Finistère Nord, on a le far noir cuit dans la soupe, le kikafars, qui est quand même connu maintenant de plus en plus.
On peut évoquer, on peut parler de pot-au-feu breton,
ouais,
sans
c'est
faire référence à nos amis bretons.
C'est ça, tout à fait. Tout
avec
à
du
fait.
Cochon.
Voilà. Et puis, bon, ben, bien sûr, ce qui prime vraiment, c'est la crêpe ou la galette.
Voilà, la légende raconte que la galette bretonne serait née. J'aime beaucoup cette histoire. Elles sont toutes fausses, hein. Mais elles sont belles à raconter. Serait d'être de la maladresse d'une femme qui aurait renversé de la bouillie de sarrasin sur un galet brûlant dans la cheminée.
Ouais, ouais.
Et par miracle serait apparue, évidemment,
oh,
la
beau.
Galette bretonne. Vous y croyez, Catherine?
Elle est belle, cette histoire. Hein.
Ah non, personne n'y croit, d'accord.
Ça vaut la tartate. Hein.
De façon plus sérieuse, comment est apparue la galette, mais telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire relativement fine? C'est plutôt assez récent, hein.
Historiquement, hein, on a des traces quand même au niveau du XVe siècle sur l'étalement de la pâte, hein, le tournage avec le rosel. Hein. Rosel dit le râteau, en fait. Hein. Les premières crêpières, en fait, les bretonnes, c'est sur les marchés, les pardons, lors des foires, où il fallait nourrir les gens qui venaient de village, voilà, venaient avec des biliques au feu de bois, avec tout un châssis en alu, et puis elles faisaient pencher sur leur bilique les crêpes pour nourrir les gens. Vraiment, les premières crêperies ont démarré comme ça. Et après, les portes des maisons bretonnes se sont ouvertes en 36 lors des congés payés, en fait, hein, voilà, où les touristes arrivaient. Et puis, en fait, c'était juste la crêpe faite dans la cheminée, et puis on la mangeait à la main, bien gorgée de beurre.
C'est ça.
On venait avec son panier, et puis ses garnitures dans le panier, et puis on disait à la crêpière, mets-moi un œuf dans ma crêpe. Alors moi, je dis crêpe parce que je suis finistérienne.
Ah, oulala, ah, on en vient à ce fameux débat, cette guerre de clochers, crêpe ou galette. Souvent, on peut penser que la galette évoque plutôt du sarrasin et c'est du salé, et que la crêpe évoque plutôt du froment et c'est du sucré. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui veut résumer ces enjeux? Galette, crêpe.
Alors vous n'avez pas de chance, vous avez pris deux finistériens. Donc
c'est sûr. Et vous,
on va être deux finistériens à défendre la crêpe en blé noir et la crêpe en froment.
C'est pour vous, le mot galette, en gros, n'existe pas.
Non.
C'est la galette de l'Épiphanie qui existe.
C'est ça.
La galette, ça vient du mot galet. C'est un petit galet, c'est l'épaisseur du produit. On peut faire, pour moi, une galette en froment comme on l'a fait en blé noir.
Mm-hmm.
On peut faire une crêpe de blé noir comme on fait une crêpe de froment. C'est la finesse du produit. Crêpe vient du mot cruspus, crêpe de Chine, enfin voilà, c'est... Donc
c'est vous qui avez raison.
Hein, oui,
du
sûr.
Côté du Finistère.
Bah, oui.
Si on résume,
bravo, Catherine.
En Haute-Bretagne, c'est-à-dire à l'est, du côté de Rennes, dans ce qu'on appelle un peu le pays gallo, on emploie le mot galette pour
exactement.
Parler de galette de sarrasin.
Mais parce que le produit est plus épais que chez nous, vraiment. Hein.
Et c'est aussi pour ça.
Vraiment, hein,
c'est
ouais,
ça. Ouais. Et à l'ouest de la Bretagne, notamment dans votre Finistère natal, on n'emploie pas le mot galette, mais crêpe, y compris pour les crêpes salées. C'est bien résumé?
Tout à fait,
c'est ça.
Bon, on va s'y mettre à la galette. Ah non, pardon, à la crêpe.
Ouais.
On peut dire galette quand même pour cette émission?
Ça va être dur.
Et vous allez réaliser la prouesse, tout simplement, de nous faire une pâte à crêpes ou à galettes. Et on se rend compte que c'est possible à la maison. C'est vrai que, autant à la maison, on a un rapport assez familier avec la crêpe de froment, autant on appréhende un peu de toucher à la galette de sarrasin. Mmh. Pourquoi ?
C'est vrai qu'elle va être peut-être un peu plus, sembler plus difficile à travailler. Déjà, la recette de la pâte, il y a quand même plein de choses à savoir pour qu'on ait un bon produit et que la crêpe soit facile à étaler. Très souvent, elle manque de cuisson, cette galette, cette crêpe de blé noir. La cuisson, d'ailleurs, est un élément très important pour la digestibilité du produit aussi. Voilà, un produit qui n'est pas suffisamment cuit va un peu faire travailler les intestins quand même. Hein. Donc voilà, mais après l'émission, vous allez tous vous y mettre et puis il n'y aura plus de problème, vous saurez faire des belles crêpes à la maison.
Cahier des charges, quel ingrédient entre dans la composition? Parce que là aussi, il y a des petites guéguerres bretonnes sur ce qui rentre dans la composition d'une pâte à galette.
On a vraiment aussi des recettes suivant les terroirs. Si la galette est rennaise, elle est faite de farine, grosselle et eau.
Farine de sarrasin pur.
Oui. Ensuite, si on va vers le sud Finistère, on mettra pas que de l'eau, on met du lait aussi. Après, on a des régions du côté centre-Bretagne, Cisin ou les Monts d'Arrée, où on va la couper avec la farine de froment. Alors, ce que je déconseille fortement de faire, bien sûr, parce que rajouter du gluten dans une farine sans gluten, c'est un peu...
Et ça atténue un peu le goût du sarrasin.
Il est caractérisé quand même amer et acide. Mmh. Bon.
Il y a des recettes qui comportent des œufs, d'autres sans œufs. Vous, vous êtes de quelle école?
Alors, je mets un œuf, en général, parce que ça aide, c'est un liant, c'est le meilleur des liants. Donc ça aide dans l'étalement de la pâte ensuite.
Hein. D'accord.
Donc c'est bien, ça arrondit, ça colore, c'est sympa.
Petite solution de facilité.
Voilà, c'est ça. Et dans ma recette, on verra que je vais rajouter aussi de l'huile.
Mais on verra pas, on va voir tout de suite. Allons-y.
Alors j'y vais, je retrousse mes manches et...
Vous retroussez les manches, vous enfilez votre casque micro, oui, car vous allez vous lever et vous mettre devant votre saladier pour nous composer cette pâte. Catherine Merdi Gouazdoué, c'est à vous.
Hop. Alors, je vais vous préparer une recette de pâte crêpe de blé noir ou de galette de blé noir avec tout d'abord de l'huile de noisette. Donc, pour 500 g de farine de blé noir, je mets ma proportion d'huile, 10 g. Je vais rajouter du miel liquide.
Le miel, c'est pour arrondir le goût un peu rustique du sarrasin?
Aussi, ou
c'est
également, pour... mais le miel a beaucoup de propriétés dans notre recette de pâte, en fait. Il va être un colorant naturel pour colorer, avoir une crêpe dorée. Il va servir de liant également. Il est activateur de levain. Et voilà, il arrondit effectivement la pointe de sel. Je vais ajouter un peu de poivre du moulin.
Et là, précisons qu'on n'a pas encore mis la farine.
Non, on mettra la farine en dernier. Je vais casser un œuf et rajouter une partie de l'eau de ma recette. Donc pour 500 g de farine, j'ai besoin d'un litre d'eau.
Oui.
Là, je vais y ajouter un quart du litre. Et là, je mets mon gros sel, 15 g pour 500 g de farine.
Très bien.
Maintenant que
c'est
tous mes ingrédients...
C'est évidemment du sel de Méditerranée. Pardon. Du bon sel de Camargue.
Voilà, du bon sel de Guérande, de préférence.
Pardon. Sortez.
Et maintenant, je vais pouvoir mettre toute ma farine.
500 grammes.
500 grammes. Et là, c'est la main qui va travailler.
Non.
À la main, comme à l'ancienne.
Ah, on met la main à la pâte.
La main à la pâte, exactement. Donc je vais absorber petit à petit l'eau, les ingrédients. Je viens mélanger comme un sablage, en
D'accord.
fait, pour démarrer, quoi.
La main reste le meilleur ustensile.
Ah oui. Pour apporter de l'air, pour sentir surtout la texture, à quel moment on va s'arrêter aussi de la travailler. À ce moment-là, je vais rajouter encore un quart d'eau et je viens la malaxer déjà pour intégrer toute cette eau là. J'ai une texture un petit peu plus souple.
Et là, on l'entend.
Alors,
il y a un bruit
petit peu
un peu plus mouillé,
mais ça, c'est pas un problème puisque de toute façon tout ça, ça va disparaître étant donné que je vais la travailler.
Décrivez-nous ce geste, Catherine.
Alors, là, on a deux gestes possibles. Dans ce grand cul de poule, alors, bien sûr, choisir un grand cul de poule, parce que, bon, c'est important pour que l'air entre bien. Je vais avoir une main écartée, bien palmée, que je vais prendre la masse et la lever.
En fait, vous battez la pâte?
Oui.
On dit la batte comme son pire ennemi, qu'on dit ça.
Oui, c'est ça.
C'est vrai qu'elle met une certaine énergie.
Ça déboule, ça défoule. Et là, je viens là aussi, la main en cuillère, prendre le fond du cul de poule et la lever, en fait. Hein,
et là, on sent qu'elle est bien gluante.
Voilà. Donc l'important, vraiment, c'est d'ajouter de l'air.
Oui.
L'oxygène va permettre, dans le repos, une belle fermentation. Alors, le signe, quand arrêter? Donc déjà, la surface brillante. La texture bien légère, bien mousseuse. On ne sent plus les grains de gros sel. Là, en fait, ce que j'ai obtenu avec mes 50 centilitres d'eau, c'est un pâton.
D'accord.
Donc, c'est ce pâton qu'on mettra à reposer jusqu'au lendemain.
Donc, au moins, minimum?
Idéalement, 24 heures. Elle est encore mieux à 48.
Ah, carrément.
Ah oui, franchement.
Ça, c'est une belle leçon qui
Donc,
permet, effectivement...
On voit bien les bulles, là, qui arrivent. À ce moment-là, je la conditionne, je mets de l'eau dessus, je la mets au frigo et je la laisse 24, 48, 12.
Et après ce temps de repos, vous allez à nouveau la mouiller du deuxième demi-litre.
Tout à fait.
Sauf que là, comment on fait? Elle n'a pas reposé. Elle ne va pas pouvoir cuire.
Ah, mais j'ai fait un pâton. Je suis venue de Bretagne avec mon pâton.
Qui a reposé apporté chez vous en Bretagne.
Avec moi.
Et là, vous allez à nouveau redétendre avec de l'eau.
Voilà. Je rajoute de l'eau. Et là, je peux prendre la louche. Hein. J'y remets pas les mains. C'est pas nécessaire.
D'accord. Et là, on obtient quand même une pâte un peu moins visqueuse, un peu plus liquide avec ce rajout d'eau.
Elle est en proportion de liquide par rapport à une recette de froment. Mm-hmm. 500 grammes de farine de froment, on met 1 litre de lait. Et pour 500 grammes de blé noir, on mettra 1 litre d'eau.
Très bien.
Donc voilà. Alors, un indicateur sur une bonne détente. Une fois qu'on a fini la détente et on la laisse reposer 2 minutes, on aura une petite mousse qui va apparaître et des petites bulles. On les voit bien, les petites bulles. Et on voit la marbrure qui arrive aussi. Waouh, elle est belle. Super.
Donc, cette pâte à galette est prête à être cuite. Vous allez faire chauffer la plaque de cuisson dont on va déguster. On va sortir notre bonne vieille crêpière.
Voilà.
Et dans un instant, en live, vous allez tout simplement nous faire des galettes.
Eh oui.
Mais on va faire...
une bonne galette au beurre.
Absolument. En attendant, une petite pause cinéma avec l'ami Laurent Delmas.
On va déguster. Sur France Inter.
Franchement, François-Régis, vous m'avez confié des feuilles de route cinématographiques et culinaires plus faciles que celles d'aujourd'hui. Merci. Si
on a voulu vous piéger.
Mais bien sûr, si encore vous m'aviez dit, allez-y, si encore vous m'aviez dit crêpes et cinéma, j'aurais pu me vautrer dans la crêpe au sucre des bronzés et autres crêperies bretonnes chez Éric Romer. Mais non, en ce dimanche matin, vous faites dans l'exigence, le spécifique et le pas banal. Bref, dans le sarrasin et la galette qui va bien avec et qui, au cinéma comme ailleurs, est à la crêpe ce que le fromage au lait cru est à la pâte molle pasteurisée un mets de roi. Mais un saint veillait sur moi, Saint-Claude, ou plutôt Saint-Claude Chabrol, le refuge de tous les cinéphiles en perdition de références culinaires. Avec lui, vous parviendrez toujours à faire coïncider un peu de cinéma avec un peu de... on va déguster. Ici, direction évidemment la Bretagne, avec son film Le Cheval d'Orgueil, adapté des mémoires de Pierre Jacquez-Elias, auteur du best-seller du même nom, paru dans la France à la fin du siècle dernier, où l'on criait « Garde la Rem, Lou Larzac !» tout en lisant Montaillou, Village Occitan, et en écoutant Glenmore et Alan Stivell. Toute une époque. Bref, dans ce cheval d'orgueil, une voix off raconte la Bretagne d'antan, ses saisons et ses jours, comme ici, en breton d'abord, puis dans la langue de l'affreuse impérialiste jacobin.
« Arzoubar den Vloaz et Bay Goyan, Aben n'avait fait qu'émi, Piouar, Armour et Neybourdom, Avid n'avait fait qu'émi, Otreï Kein de Zoutan. »
Le bain rituel de l'année, en baie d'Audierne. Peut-être que la mer ne serait plus notre ennemie, celle à qui l'on tourne le dos. Mais non, nous étions de la terre. La terre seule était notre bonheur, mêlant sa bonne odeur à celle du blé noir.
Ah, il y est, Béloire.
Mais oui,
voilà.
Mais voilà, dès les premières minutes du film de Chabrol, le sarrasin est donc évoqué, tandis qu'à l'image, on voit une robuste bigoudaine faire cuire de belles galettes dans une cheminée. Quelques années auparavant, en 1954, on pouvait voir Le meilleur de ma jeunesse, des frères Caouissin, un autre film français fondé cette fois sur les mémoires du poète breton Théodore Botrel, 1868-1925, pour mémoire, mon cher François-Régis. Le célèbre auteur de la non moins célèbre Pimpolaise. Toujours en voix off, on y entend les souvenirs d'enfance du futur poète qui, contraint d'aller vivre à Paris, se souvient avec nostalgie des galettes qu'il a laissées derrière lui.
Et surtout pour y manger quoi, grand Dieu ? Un tas d'horreurs compliquées et qui paraissaient exécrables à mon palais de petit rustre qui n'avait jamais dégusté que des soupes aux choux ou au lait, des tartines de beurre ou de lard, des saucisses ou des crêpes de blé noir. Le tout arrosé de bonne eau claire ou d'une volée de cidre doré. Tout ce qui constituait en un mot les menus de grand-mère.
Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire en bonus un extrait d'un poème du même Botrel intitulé « Les crêpes bretonnes de blé noir ». Je cite, le soir meurt, la nuit se ferme dans le vieux char cahotant, rallions vite la ferme où le souper nous attend. Une odeur exquise y rôde, fortifiant notre espoir d'une bonne soupe chaude et de crêpes de blé noir. C'est avec un soin extrême que Marivonne a jeté dans le bon lait lourd de crème, le sarrasin bien bluté. Un coup de petite fourche et vite, au vent de son tablier, l'ajon flambe et crépite, illuminant le foyer, etc., etc. Alors impossible de se quitter autrement que par un clin d'œil au plus breton des cinéastes français, Christophe Honoré, qui dans les chansons d'amour fait chanter ainsi Grégoire le prince Ringuet.
Je suis beau, jeune et breton, je sens la pluie, l'océan et les crêpes au citron. Tais-toi un peu, petit trésor, tu as fois encore. Suis très précieux, épargne-moi.
D'accord, mais entre nous, pas de ça.
Être un corps, je suis d'accord.
Je cherche seulement des bras. Sous les draps,
mais je crains que pour tout ça, tu dois entendre.
Eh bien, Laurent Delmas, vous avez rempli avec beaucoup de talent ce défi piégeux.
C'est gentil.
Du blé noir au cinéma. On vous invite quand on fait une émission sur l'Oregon.
Ah oui.
Chiche. Dans un instant, Catherine Merdi-Gouazdoué nous réalise des galettes sur la plaque de cuisson dont on va déguster. Et puis Yves Philippe nous raconte l'aventure de son entreprise nommée Brésine. C'est une aventure toute récente qui a seulement 2 ans.
C'est ça. Création il y a 2 ans et commercialisation depuis 1 année.
Avec un succès hallucinant.
On est assez content du démarrage, c'est vrai.
Watching Stranger Smile du quatuor new-yorkais Parquet Courts, et ce titre rock a mis une pêche d'enfer à Catherine Merdi-Gouazdoué qui est en train de faire chauffer la plaque de cuisson de l'émission. Nous sommes également en compagnie de Yves Philippe. Brésine, c'est votre aventure, votre entreprise depuis 2 ans, tout autour du sarrasin.
100% autour du sarrasin.
Depuis le champ.
Jusqu'au paquet. Exactement.
En passant par une crêperie en construction.
En devenir, exactement.
C'est ce qu'on va voir dans un instant.
France Inter. François-Régis Gaudry. A menu, please. On va déguster.
Est-ce que notre crêpière est chaude?
Oui, ça y est, ça fume, ça commence.
Il faut qu'elle soit bien chaude, c'est une règle.
Ah ouais, c'est bien qu'elle soit saisie.
Là, vous avez fait un petit geste avec une goutte d'eau.
Oui, pour contrôler la température, pour voir si la goutte était vraiment en ébullition instantanée.
Donc, il faut que ça fasse un peu...
Ouais, ouais. Très bien. Donc là, je vais beurrer ma crêpière avec un beurre clarifié. Comme il est clarifié, il ne va pas brûler. Et je viens y déposer ma louche de pâte.
Ah, il y a une belle musique.
Voilà, sur tout le fond.
Ça bulle à la surface de la galette.
En tendant bien mon poignet, oui. Voilà, je vais augmenter.
Il faut vraiment saisir la pâte. Hein.
Un petit peu pour le... Oui, il faut la saisir. Ouais. On voit apparaître sur le bord un peu de coloration, là. C'est bon signe.
Ça sentir bon.
Et ouais. Yves-Philippe.
Oui.
Le goût du sarrasin. Est-ce que vous arriveriez à poser des mots dessus?
Ouais, j'ai réfléchi à ça et pour moi déjà ça a le goût de la liberté, le goût du bonheur, le goût de l'avenir.
Il est bon, il est bon en marketing, monsieur. D'accord, mais encore.
Non, ça dépend en fait comment on le déguste. Ce sarrasin, il a quand même un bon goût de, un arrière-goût de noisette derrière. Je me suis fait aider d'un copain comme à un moment donné qui a un bon palais pour mettre des mots sur ce goût. Alors Stéphane a trouvé que la farine avait des goûts de noisette fraîche et après une légère amertume une fois qu'on a mâché la farine en brut. On peut déguster aussi de la graine de sarrasin pur. Alors là, on a plutôt un noix de cajou et une noix de cacahuète en fond de bouche. Et en arrière-goût, on va trouver le goût du tournesol séché.
Intéressant. On dit aussi que le sarrasin développe un peu des notes fumées.
Oui, aussi, exactement. On peut retrouver ça à un moment donné en fond de bouche, en deuxième palais.
Très bien. Eh ben, monsieur a étudié la question. C'est le goût du sarrasin. Alors, on en est où? Cette crêpe est en train de cuire?
Ça cuit toujours. C'est plus long à cuire le blé noir que le froment.
D'accord.
Deux fois plus de cuisson que le froment. Surtout quand elle est un petit peu galette, comme ça, un peu épaisse. C'est ce qui peut embêter, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de retours comme ça, des gens qui font des crêpes à la poêle à la maison. Ouais, mais à chaque fois, ça se déchire, ça casse, ça fait... voilà. Donc, si ça fait ça, c'est qu'elle n'est pas assez cuite. On veut la décoller, la retourner avant qu'elle soit vraiment, bien cuite. Alors, je la retourne.
Yes!
Voilà, la petite coloration. Elle peut être un petit peu plus colorée si on veut, mais on voit bien les petites bulles qui ressortent là. Et on cuit bien sûr du deuxième côté, c'est important. Hein. Un petit peu moins toujours pour le deuxième. Voilà, et après on pourra la garnir comme on veut. Du beurre pour goûter vraiment la crêpe ou du fromage, du jambon, de l'œuf.
On peut faire une complète.
Plein de choses.
Une galette saucisse?
Oui. Absolument.
Très bien. Et ben voilà, vous avez réussi la mission de nous faire une galette sur une crêpière familiale. Comme quoi, c'est possible sans un bilig.
Oui.
Sinon, si on a un bilig, c'est encore mieux. Hein.
Ah bah
on parle de cette
mieux.
Plaque de fonte.
Bah, bien sûr.
Très bien.
Ouais. Absolument.
On va la déguster dans un instant. Yves-Philippe, Bredzin, comment a commencé cette aventure?
Alors l'aventure a commencé sans doute par une petite crise de la cinquantaine pour ma part. Il y a trois années, j'ai rendu de vacances, on a besoin de s'aérer, sans doute l'activité, j'ai fait 26 ans dans l'ingénierie en travaux publics. Envie de s'aérer et j'ai eu envie d'acheter des champs. Et c'est là que j'ai découvert, quand même étant issu comme du monde paysan par ma grand-mère et avoir fait quelques cultures avec elle à l'époque, j'ai découvert comme ce monde qui était peut-être pas très riche, on va dire entre guillemets, que la rentabilité des terres et puis de se retrouver un revenu avec que des terres, c'était pas évident. Donc j'ai voulu transformer mes propres céréales jusqu'au bout.
C'est ça. Donc vous commencez par les champs où vous cultivez du sarrasin. Il y a d'autres céréales que vous faites aussi.
Exactement.
Et ça se passe sur la presqu'île de Crozon.
C'est ça. On a 90 hectares de terre, donc en presqu'île de Crozon, au bout du monde. Les premières terres avant l'Amérique. Et donc la première culture que j'ai voulu faire, c'est le sarrasin et labellisé IGP. Donc il y a un label en Bretagne pour le sarrasin.
Indication géographique protégée, hein, qui a fêté ses 10 ans il y a quelques années.
Exactement. Donc Blé Noir Tradition Bretagne, une association où on regroupe des producteurs, tels que le paysan que je suis, des récoltants, des stockeurs, sécheurs, et après des minotiers.
C'est ça.
Donc c'est toute une filière qui a été mise en place justement pour sortir au bout de la farine de sarrasin IGP.
Votre culture de sarrasin est totalement sobre en termes de produits phytosanitaires, et c'est ça l'avantage aussi de cette plante, c'est qu'elle est vraiment rustique et elle n'est pas du tout, il n'y a pas de culture chimique.
Exactement. Donc déjà pour notre part, nos cultures sont bio, donc on est déjà sans phyto. Mais le sarrasin, c'est vrai que nécessite aucun apport pour sortir de terre. Et l'avantage aussi pour la culture, c'est que c'est une plante auto-nettoyante, donc elle écrase les autres parasites qui peuvent arriver sur les propres terres.
Vous observez un véritable essor du sarrasin en Bretagne. On est parti de loin parce qu'on a abandonné dans l'après-guerre sa culture, souvent au profit du maïs. D'ailleurs, c'était pas une très bonne nouvelle à l'époque. Productivisme agricole, évidemment.
La politique agricole qui a poussé ça.
C'est ça, qui a chassé vraiment le sarrasin de vos terres. Il revient, c'est une très bonne nouvelle. Toutefois, la Bretagne n'est pas encore vraiment autosuffisante, Catherine, en sarrasin.
Non. Il manque effectivement...
On est à peine à 25-30% de culture.
Ouais.
Sa production annuelle bretonne, entre 3000 et 4000 tonnes, soit 20% seulement du marché, avec du coup la concurrence féroce des blés noirs d'importation de Chine, des pays de l'Est,
du Canada. Et du Canada autrement.
Donc il y a encore du boulot. Hein.
On a quoi faire encore en Bretagne pour changer les cultures.
Mais il y en a un qui se relève les manches, et ben c'est Yves Philippe, qui nous a même apporté le résultat de sa culture de sarrasin. Ce sont des petits sachets avec un très joli emballage, et à l'intérieur on y trouve des cookies au sarrasin, des biscuits salés. Racontez-nous.
Oui, donc c'est vrai que quand vous dites pour le packaging, c'est vrai que l'idée c'est de sortir une marque propre environnementale. Donc on est sur les sachets en papier craft et puis un plastique recyclable. Et l'idée était de, on a commencé d'abord par sortir des biscuits sucrés. On est parti, on a revisité le cookies en 100% sarrasin.
Il est
on
en train de circuler autour du plateau, le cookies sarrasin chocolat.
Voilà, on a pensé aux enfants avec ce biscuit. On a retravaillé la petite galette bretonne, le gâteau breton. Et étant bon vivant, j'ai voulu aussi passer sur le gâteau apéritif, puisque... je trouvais que c'était bon, et ça fera le lien avec la chronique de tout à l'heure, avec le vin. Là, on a créé des petits cœurs à la tome. Et l'idée dans cette aventure, c'est aussi de faire travailler l'ensemble des producteurs locaux. On veut travailler le circuit court. Donc les œufs qu'on incorpore dans nos biscuits sont issus de la ferme mitoyenne à notre ferme. Et donc la fiente, après des poules, justement, on la récupère pour amender nos propres terres.
C'est ça, ça vous sert d'engrais.
Exactement.
Ça fertilise vos sols.
Et on essaye d'être vertueux.
Et ben voilà, donc du coup, la boucle est bouclée. Et
exactement.
Je vous ai gagné à se distribuer des cœurs, c'est une grande première pour moi.
Oui, alors ça, on parle des cœurs apéritifs, mais si on en reste effectivement à ce petit cookies au chocolat, on va dire que le chocolat, c'est, même s'il est bio et équitable, et qui vient en bateau jusqu'à vous, je crois.
C'est ça, on est.
C'est la seule
matière carbone.
C'est la seule matière première lointaine.
Exactement, parce que autrement, on est tous sur des matières soit très bretonnes ou finistériennes dans nos biscuits. Le beurre, il vient du Morbihan, de la laiterie de Carguillet. Le fromage qu'on en incorpore dans nos biscuits salés, c'est la ferme de Quimer. Pour la petite histoire, c'est une Hollandaise qui a revendu sa ferme en Hollande et qui a recréé une ferme en Finistère, et donc qui nous fait notre tome bio. Les œufs, dont j'ai parlé, viennent de Presqu'île de Crozon. Le sucre qu'on ajoute dans nos biscuits, lui vient de France. C'est du sucre
et
de betterave
pas
français.
Trop, c'est très bien. C'est délicieusement sablé.
Bon,
pas trop sucré, c'est parfait.
Il est
excellent dosage.
Il est exceptionnel, ce cookie sarrasin. Ouais. Il est sans gluten parce qu'il est 100% sarrasin.
Exactement.
Il n'y a même pas un peu de froment pour colmater le tout, entre guillemets.
Pas du tout. Non, on est vraiment sur du 100% sarrasin. On n'incorpore pas du tout d'autres farines dedans.
Et comme vous êtes un homme très sympa, On vous a un peu menacé, hein, mais on a réussi à vous extorquer la recette de vos cookies sarrasin, qui figure d'ailleurs, tout comme évidemment les crêpes, les galettes de notre amie Catherine, sur la page internet dont va déguster sur franceinter.fr. La recette de cookies en un mot.
On va prendre 85 grammes de beurre demi-sel, 85 grammes de sucre, un œuf, un sachet de sucre vanillé, 150 grammes de farine de sarrasin breton.
Évidemment.
Et bio. Une cuillère à café de poudre à lever. Une demi-cuillère de café à sel. Et 120 grammes de pépites au chocolat.
Voilà.
On met du chocolat noir ou du chocolat au lait, comme on préfère.
Mm-hmm.
Donc on fait ramollir le beurre. On malaxe avec le sucre dans un saladier ce beurre. On ajoute l'œuf, le sucre vanillé. Vous versez progressivement ensuite la farine, la poudre à lever, le sel et les pépites de chocolat. Vous mélangez bien. À l'aide de deux cuillères à soupe, vous faites des petites noix de pâte que vous déposez sur une feuille de papier sulfurisé. Vous les espacez bien puisque ça va avoir tendance à s'étaler lorsque ça va chauffer. Et tout ça dans une cuisson de 12 à 13 minutes à 180 thermostasis.
C'est ça. Donc on mélange tous ces ingrédients, évidemment. Et ensuite, il y a une cuisson 12, 13 minutes à 180 degrés, c'est ça, hein?
C'est ça.
Et on obtient ces délicieux cookies bien croustillants avec un très bon goût de sarrasin. Oui. Votre recette, et Philippe, ainsi que la recette, évidemment, des galettes bretonnes de Catherine, sont à retrouver sur le site de l'émission franceinter.fr à la page « On va déguster ». Notre pause liquide arrive enfin. Jérôme Gagnez entre en scène.
On va déguster sur France Inter.
Ah. Oh, c'est pas vrai.
Moi, j'ai foutu plein partout.
Merveille.
Oh, le désastre. J'ai gâté le plastron, les enfants. Bon, c'est pas très grave.
Tant d'années d'expérience pour.
On peut raconter pour nos éditeurs
ben,
que.
Je voulais faire un
lamentablement,
sublime bruit.
Une gerbe de vin rouge atterrit sur votre chemise.
Est venue baptiser ma chemise. J'ai gâté le plastron, comme on dit. Bon. C'est pas très grave, ça fera la fortune du teinturier.
Ah, vous dites teinturier ?
Bah oui, pourquoi ?
Vous dites pas pressing ou...
Oh non,
le teinturier, pourquoi ? Oui.
Non, teinturier, c'est bien, c'est un joli mot.
Oui.
Je roule en bicyclette et je vais chez le teinturier. Et je porte des chandails. Donc... Laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît, M. Gaudry, ça suffit maintenant. Je n'avais pas envie, je n'allais pas parler une énième fois de cidre avec les crêpes. Je trouvais qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Il s'avère que j'ai croisé le chemin d'une bien belle propriété située sur les bords de la Gironde, figurez-vous, dans une appellation qui s'appelle Blaye. Côte de Bordeaux.
Il est décidément très copain avec les vins du Bordelais, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Il y a un tropisme.
Là, ça commence à venir, oui. Donc, Blaye Côte de Bordeaux, c'est une belle appellation qui est vraiment située sur les bords de la Gironde, donc juste après le confluent de la Dordogne et de la Garonne. Et là, on trouve 6000 hectares de vignes qui se partagent des sols argilo-calcaires, des sols calcaires, ainsi que des sols de graves argileuses, donc des graviers. On y produit des vins rouges et des vins blancs. Et au sein de cette belle appellation, parce que c'est une très belle appellation, qui est parfois un peu, on va dire, méconnue, elle est un peu dans l'ombre des grandes appellations du Médoc, elle est un peu dans l'ombre des grands noms bordelais tels que Saint-Émilion ou Pomerol, mais on a là une communauté de vignerons qui produisent des vins qui sont bien typés, qui sont des vrais Bordeaux comme on les aime, pour ceux qui travaillent bien évidemment. Et j'ai trouvé au sein de cette communauté un domaine dont j'aime beaucoup les vins qui s'appelle le Château Pébonhomme Les Tours. C'est la famille Hubert qui possède cette propriété. Jean-Luc en était le dirigeant, Jean-Luc et Catherine Hubert. Et ce sont maintenant Rachel et Guillaume, les enfants de Jean-Luc et Catherine, qui prennent la relève. Il y a une très grande gamme de vins. Il y a 64 hectares de vignes. Là encore, c'est une très bonne nouvelle. 64 hectares de vignes qui sont en bio et en biodynamie. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas seulement small is beautiful. C'est pas parce qu'on est petit qu'on fait bon. Et c'est pas parce que c'est bon que forcément c'est petit. On a là 64 hectares de vignes. C'est quand même un sacré boulot.
Ça commence à faire, ouais.
Ça commence à faire. Avec une production au millimètre. Des vinifications qui sont d'authentiques belles vinifications artisanales, des levures indigènes. Donc on a un lien au sol, un lien au lieu, un lien au terroir qui est toujours très fort dans ces vins. Je vous parle là de deux vins, deux cuvées, une qui a un lien direct avec les crêpes de sarrasin, parce que je cherche, moi, quand je pense crêpe de sarrasin et que je réfléchis à un vin, je pense à de l'acidité, je veux du fruit et je veux aussi une texture très coulante, une texture très soyeuse, très souple, très coulante. On disait autrefois goulayante. Donc je veux pas des tanins qui viennent un peu me serrer le palais, la langue, je veux au contraire quelque chose qui soit très détendu. Eh ben, j'ai croisé, et c'est là où j'ai pensé à vous, cher Laurent, j'ai croisé la route de Monsieur Merlot, les vacances de Monsieur Merlot. Évidemment, clin d'œil aux vacances de Monsieur Hulot.
Mais là, vous parlez du nom d'une cuvée.
Et là, je parle du nom d'une cuvée, tout à fait, les vacances de Monsieur Merlot. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Ben, c'est parce que la volonté...
Parce qu'il y a du Merlot.
Et bravo, on ne peut rien vous cacher, quel talent,
c'est patron. Simple.
Non seulement il y a du Merlot, mais parce que c'était la volonté de Rachel était clairement de faire un vin qui rappelle un peu les vacances. Donc, on prend des Merlots qui sont sur des argiles graveleuses, donc c'est des terroirs qui sont relativement filtrants. On a
un merlot qu'on va faire macérer pas très longtemps. On va pas chercher beaucoup d'extraction, on va chercher juste le fruit. On veut capter le fruit de ce merveilleux cépage qu'est le merlot. On veut capter son fruit, l'emprisonner dans la bouteille, donc un élevage qui n'est pas très long. Et on a...
En Loire ou en Beaujolais, on dirait que c'est un vin de soif.
Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est, au fond, ce qui a peut-être parfois, dans l'image populaire, beaucoup manqué à Bordeaux.
Oui.
On a toujours imaginé le vin de Bordeaux, c'était un mec en costard-cravate avec le col un peu serré. Bah là, il a enlevé sa cravate, il a ouvert la chemise, il a mis un bermuda, il s'est un peu détendu.
Il s'est fait faire un tatouage.
Et il s'est fait faire un petit tatouage, éventuellement. Et donc, en fait, voilà un vin qui est bien, donc parfaitement dans la typicité de ce qu'est un merlot sur des argiles et des graviers, avec un registre très gouléant, très facile, sans vulgarité.
Non.
C'est pas assez facile, mais ça n'est pas vulgaire. Il y a un très joli fruit, un tout petit peu de gaz, ça apporte un supplément de fraîcheur, mais oui, ça en fait un vin qui est encore une fois très digeste, un vrai vin de soif,
une jolie finale acidulée,
oui, donc c'est un vin qui accompagne l'apéritif, qui accompagne le repas, donc voilà, c'est une très jolie cuvée. Et puis il y a une autre cuvée, c'est la cuvée Pébonhomme, Château Pébonhomme Les Tours. Alors là,
ça,
il a remis un petit peu sa cravate,
oui, c'est ça.
Mais sauf que les tanins sont très fins, il y a une très belle extraction, c'est pour moi l'archétype du joli Bordeaux, classieux et élégant. Quand je vous aurais dit que la première cuvée vaut 11 euros, la deuxième vaut 12 euros, que la deuxième cuvée, c'est un vin que je vais mettre en cave 10 ans, sans aucun problème, vous avez là vraiment l'archétype de ce que moi, je cherche à Bordeaux, c'est-à-dire vraiment un peu de sérieux, du fruit, c'était devenu rare, et un élevage qui est parfaitement adapté. Il y a un quart d'élevage en fût, sur la cuvée Château Pébonhomme, un quart d'élevage en fût, et le reste, c'est que de la cuve. Eh ben, ils ont bien fait. Bravo les Hubert, parce qu'il y en a marre d'avoir l'impression d'avoir du sirop de poteau dans son verre, d'avoir des vins de menuisier. On veut des vins.
Oui, ça l'élevage, ne sent pas le bois,
c'est intéressant.
Il n'y a pas l'ombre.
Non, il n'y a pas de bois là, dans cette cuvée-là. Il a juste détendu un peu le vin. Château Pébonhomme, Les Tours, à Blaye, ils reçoivent fort bien, c'est très beau comme endroit, et les vins sont délicieux, il y a plein d'autres vins qui sont délicieux. Donc voilà, allez croiser la famille Hubert au Château Pébonhomme, Les Tours, c'est du Bordeaux qu'on aime et donc on a envie de boire.
Et en mangeant des crackers au sarrasin qui sont bien meilleurs qu'une certaine marque avec deux prénoms masculins qu'on trouve partout, mais cela vraiment c'est autre chose.
Hein. Je suis d'accord avec vraiment. Vous, exceptionnel ces gâteaux apéritifs.
Ouais, exceptionnel.
Vraiment très bon, avec que des matières locales, biologie, pas de gluten.
Exactement.
En voilà une très belle affaire. Juste un dernier petit mot et on est obligé de se quitter sur la crêperie qui est en projet. Comment va-t-elle s'appeler? Où va-t-elle se situer?
Donc on ouvre une crêperie L'Impératrice, dit by Brisine, à Plougastel d'Aoulas. L'idée, c'est de continuer à travailler nos céréales d'antan, et donc on va faire des crêpes après froment avec notre blé ancien.
Très bien.
Un minimum de gluten dedans aussi.
Et ça ouvre quand?
Et ça ouvre le 15 avril, excusez-moi.
Du côté
on
de
y sera.
Plougastel, porte d'entrée de Brest.
Et votre définition de la galette, c'est à peu près la même chose que chez Catherine, ou il y a du lait, des œufs, c'est différent?
Non, on sera plutôt très près de la recette de Catherine, puisque Catherine nous aide beaucoup dans cette création.
Donc pur sarrasin, eau. Un peu de miel.
Un peu de miel.
Du sel de Guérande.
Et un œuf.
Voilà. Ouais. Et on obtient de délicieuses galettes. Un grand merci, Catherine Merdi-Gouazdoué, pour votre démonstration
également
sur la crêpière dont on va déguster. Les crêpes, l'art et la manière, c'est votre livre de référence. Je le conseille à nos auditeurs et nos auditrices pour apprendre non seulement les galettes de sarrasin ou les crêpes, comme on dit dans votre pays, mais également les crêpes de froment. Tout y est. C'est vraiment un ouvrage pour tous les crêpophiles à avoir à la maison.
Et nous avons tourné en vidéo juste avant cette émission une démo de galettes de sarrasin sur la plaque de cuisson dont on va déguster. Cette vidéo est à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster.
Et merci beaucoup cher Yves Philippe Bredzin, on suit vos aventures. Alors d'abord en Bretagne, et là ça s'élargit et on peut trouver désormais vos produits dans pas mal de magasins bio, y compris du côté de l'Île-de-France et ailleurs en France.
Exactement, on nous retrouve dernièrement vers Lille, Strasbourg et Paris, on y distribué en biocoop, en épicerie fine et en épicerie vrac.
Bon vent à vous, c'est très belle aventure et vous avez tout notre soutien. La semaine prochaine, on vous raconte et on cuisine une grande spécialité culinaire chinoise qui fait fureur en ce moment. Si je vous dis bao...
Ça, c'est fabuleux, ça.
Bao, au menu dont on va déguster. Zazie Tavitian et Elvira Masson seront du voyage à dimanche prochain, si vous avez encore faim.
Bon dimanche.